Vous écoutez RTL.
RTL.
Vague !
La curiosité est un vilain défaut.
On les abandonnera pas.
Face à la mer, j'aurais dû grandir.
La boussole est morte !
On a perdu les ponts.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un film à grand spectacle qui sort mercredi en France. The Finest Hours raconte l'histoire d'un des plus grands sauvetages en mer de l'histoire américaine. Il nous a donné envie de découvrir cet univers en France grâce à nos deux invités. Xavier Delagorce, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
bonsoir.
Vous êtes président de la Société Nationale du Sauvetage en Mer, la SNSM. Et Bernard Baron, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous êtes sauveteur bénévole à Calais depuis plus de 25 ans. Xavier Delagorce, j'annonçais tout à l'heure 6000 personnes sauvées, c'était en 2014. C'est quoi ? C'est à peu près ça chaque année, les sauvetages de la SNSM en France ?
On est de cet ordre-là. C'est à peu près étal. Il y a une activité constante. Ça peut dépendre un peu de la météo. Ça dépend aussi de la prévention, des résultats de la prévention. Enfin, on tourne autour de 5000, de 6000 personnes sauvées. Oui.
Et ça, c'est le chiffre qui concerne les sorties en mer ou ça intègre aussi les sauveteurs qu'on voit l'été sur nos plages ?
Alors, il y a deux catégories de sauveteurs. Il y a des sauveteurs embarqués, ce qu'on appelle les sauveteurs embarqués, c'est-à-dire ceux qui vont en mer, qui sont, c'est le cas de Gérard Baron qui est ici. Bernard Baron, pardon. Et puis, il y a tous les nageurs sauveteurs qui sont sur le littoral, qui sont des jeunes qui, pendant l'été, mettent leur talent, si je veux dire, en tout cas leur temps à la disposition des mers après avoir été formés. Et qui assistent, qui surveillent à peu près le tiers des plages en France. Voilà, ce sont les deux catégories de.
Bien, on a posé le décor, on a
famille.
Bien compris.
Bernard Baron, on vous imagine toujours en pleine mer, portant secours à des pêcheurs surpris par la tempête ou des plaisanciers aussi en perdition. Mais même en plein été et à terre, vous pouvez intervenir. Que vous est-il arrivé le 5 juillet dernier ?
À terre, nous les sauveteurs embarqués, nous n'intervenons très rarement à terre parce que un sauveteur embarqué de la SNSM, c'est une personne qui est prête à partir en mer à chaque réquisition des crosses parce qu'on fait pas ce qu'on veut en mer.
Réquisition des crosses.
Alors la crosse, c'est les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage. Il y en a 5 en France et on en a un. C'est les tours de contrôle de la mer qui sont gérés par les affaires maritimes. Nous, on est rattaché au Cross Greenet.
Donc ça, c'est ce que vous faites habituellement. Pardon, voilà. Je vous interromps. Mais
là,
ce jour-là,
alors ce jour-là, 5 juillet, bah écoutez, 5 juillet, il y a une intervention qui a démarré d'une plage. Effectivement, c'était une inquiétude pour un baigneur qui avait été repéré se mettre à l'eau et qui n'était pas revenu à son point de départ. Et donc le Cross a déclenché des secours, les secours côtiers. Les pompiers et nous, on a été appelés pour ratisser au large en vain parce que la personne était en fin de compte rentrée chez elle tout simplement.
Ah non.
Ça arrive souvent, ça, les faux appels ?
Ça arrive pas souvent, heureusement. Ça arrive assez fréquemment, quand même. Notamment avec des. Actuellement, on a des nouveaux sports en Manche où il y a du vent. C'est les kitesurfers et les planches à voile. Et généralement, les jeunes qui ne rentrent pas chez eux directement le soir, on se pose des inquiétudes à leur sujet ou ils ne signalent pas leur famille qu'ils sont rentrés. Et nous, on nous déclenche pour aller les chercher.
Xavier Delagorce, c'est quoi le type d'intervention, les interventions les plus nombreuses pour la SNSM ?
C'est clairement au profit des plaisanciers. La SNSM a été créée au départ par des pêcheurs au profit des pêcheurs. Donc les pêcheurs, par solidarité, on en reparlera peut-être, solidarité des gens de mer, qui est un principe très fort.
C'est pas un vain mot, oui.
C'est une réalité quotidienne. Et de tous les milieux de marins, toutes les origines de marins. Donc aujourd'hui, c'est 80% à peu près de nos interventions sont au profit des plaisanciers. Donc on voit bien d'ailleurs qu'il y a moins de pêcheurs. Les pêcheurs sont souvent plus au large. Et l'essentiel du trafic à proximité, c'est-à-dire dans la zone entre 5 et 10 nautiques, ce sont des plaisanciers. Donc c'est bien ceux-là qu'on va secourir. Et puis c'est dans cette population-là aussi, faut pas stigmatiser le plaisancier, bien sûr, mais c'est dans cette population-là, qui est nombreuse, qui a aussi encore aujourd'hui la non-observance d'un certain nombre de règles élémentaires. La
météo, comportement un peu dangereux, quoi.
Ben, comportement, oui, en tout cas, qui peuvent mener au danger, parce que la mer, elle n'est pas dangereuse en elle-même, mais la mer, elle évolue, elle peut évoluer vite, elle est capricieuse. Il n'y a pas une mer, il y a des mers. On passe un cap, on passe une baie, on passe des baïnes. La mer n'est pas la même, les dangers ne sont pas les mêmes. Donc nous, ce que nous ne cessons de répéter à titre de prévention auprès de tout un chacun, et notamment des plaisanciers, ce sont des règles basiques. Des règles basiques, c'est la météo, c'est d'avoir un téléphone portable ou une VHF, c'est de prévenir son entourage, c'est de savoir si on a suffisamment d'essence, c'est de savoir comment ça marche, c'est de savoir où sont les fusées de détresse, c'est de savoir le numéro du cross. Et ce sont des règles essentielles et qui permettent effectivement d'éviter de graves mécomptes par la suite en mer.
Et c'est bien de le rappeler. Bernard Baron, Calais fait souvent la une de l'actualité pour les migrants qui cherchent à passer en Angleterre. Certains tentent leur chance par la mer.
Oui, c'est un gros problème récurrent depuis plusieurs années à Calais maintenant. Calais, c'est un port qui se trouve à 30 km des côtes anglaises. Et quand on est sur nos côtes, sur notre littoral, on voit la mer. Et pour tous ces gens qui arrivent dans un cul-de-sac qu'est Calais, qui ont traversé, enduré des mois de souffrance, de galère, comme on dit, pour venir chez nous, ils voient le but en face d'eux, et ils sont prêts à prendre tous les risques pour arriver. Et
pour passer, oui.
Pour passer le fameux détroit du Pas-de-Calais, qui n'est qu'un détroit, mais qui est aussi un piège redoutable pour l'amateur de traverser.
D'ailleurs, la semaine dernière, certains de vos collègues ont sauvé 4 migrants. Comment ça s'est passé? Ils s'étaient embarqués
sur quoi? On a été déclenchés peu avant 6h du matin par le fameux cross dont nous parlions tout à l'heure. On avait été déclenché pour intervenir pour une embarcation qui avait chaviré au large de Calais, hein, en gros, et il y avait plusieurs personnes à la mer. Donc on est parti très vite. Il faut dire que nos canots tout temps, c'est des canots qui sont opérationnels 24 heures sur 24, comme les sauveteurs qui les arment, et nous devons passer les jetées de Calais, pour ce qui concerne Calais, dans le quart d'heure après l'alerte.
Et ces migrants, ils étaient sur quel type d'embarcation?
Ces migrants étaient des Iraniens qui avaient emprunté une petite embarcation de 3 mètres de... C'était plus une baignoire qu'une embarcation. Et ils avaient vraisemblablement pris la mer sans consulter la météo. Il y avait un avis de grand frais, c'est-à-dire de force 8 à 9 d'annoncer.
Oula, c'est beaucoup.
Et on a été les chercher in extremis. On les a retrouvés. Ils n'avaient pas moyen d'équipement de signalisation.
Ils étaient en hypothermie, j'imagine.
Il y en avait 2 en hypothermie sévère, et les 2 autres, ça allait, mais ils étaient tous choqués et inconscients, malades.
C'est aussi ça le travail de la SNSM, notamment à Calais. On va continuer de raconter certaines des missions les plus périlleuses, expliquer aussi comment ces hommes et ces femmes sont répartis dans des centaines de stations dans toute la France. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ils interviennent l'été sur nos plages, mais aussi l'hiver, les jours de mauvais temps au large. On découvre l'univers des sauveteurs en mer ce soir sur RTL, grâce à Xavier Delagorce, président de la SNSM, et Bertrand Baron, sauveteur bénévole. J'ai dit quoi?
Bertrand.
Mais quelle fatigue, mais ce lundi...
C'est le début de semaine, hein, mais on va arriver
terrible.
À la fin. Comme
pardonnez-moi, toujours. Bernard Baron, vous êtes sauveteur bénévole à Calais depuis plus de 25 ans. Vous en avez sauvé combien des vies depuis votre première sortie en mer, Bernard?
Oh mon Dieu, déjà... Je n'ai pas sauvé des vies à titre personnel parce que nous sommes
un équipage. Et vous les représentez ce soir?
Bon, alors je les représente. Bon, allez, on va faire un calcul. On note pas ça sur un petit carnet.
Pas le compte, c'est vrai.
On fait.
Bon, on les a dans les tripes, j'imagine quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça. On est heureux quand on ramène, comme là, il y a 3 semaines, on ramène des personnes qui étaient à deux doigts de passer de vie à trépas. On a en moyenne, en ce qui concerne les ports de la mer du Nord, une trentaine d'interventions de secours par an. Sur ces 30 interventions, il y en a 10 sérieuses. 10 au cours desquelles des gens sont sauvés. Parfois, on en sauve une. Parfois, on en sauve 4, comme il y a 3 semaines. Parfois, on en sauve 26, comme dans certains naufrages de grosses unités. On récupère les gens. Alors, bah, on fait le calcul. Mettons 10 sauvetages par an avec une dizaine de personnes sauvées. 25 ans, ça fait 250.
Ah bah c'est bien, c'est beau. Bravo.
En toute humilité, hein, parce que notre terrain de jeu, nous, on n'a pas de spectateurs et on est des bénévoles.
Vous êtes bénévole, mais votre métier au départ, c'est quoi ?
Personnellement, je suis journaliste.
Vous êtes journaliste ? Ouais. Il y a toutes sortes de métiers qui participent à la SNSM.
D'abord, on a beaucoup de portuaires, bien sûr,
hein, ouais, des
travailleurs portuaires.
Ouais,
on a un impératif, c'est qu'on doit passer les jetées dans le quart d'heure après l'alerte. Donc, ça nous oblige soit à travailler, soit à habiter à proximité de la canotte. La canotte, c'est notre bateau.
Hein, ouais.
Et bon, alors, on a souvent des portuaires, on a des enseignants, on a des artisans. En ce moment, le patron du canot, c'est un artisan, c'est un plombier.
Mais Xavier de Lagorce, dans les bénévoles de la SNSM, moi, spontanément, j'aurais dit, c'est d'abord des marins-pêcheurs.
Non, historiquement, c'était des marins-pêcheurs.
Ouais.
Je l'ai dit tout à l'heure, ça a été créé par les marins-pêcheurs, pour les marins-pêcheurs. Il se fait qu'il y a de moins en moins de marins-pêcheurs. Et il y a, en revanche, un élargissement du potentiel de recrutement. Donc, comme vient le dire Bernard, on trouve un journaliste, on trouve un gendarme, on trouve un employé municipal.
Mais il faut les former, ces gens-là.
Alors, on les forme. C'est tout à fait ça. On trouve des plaisanciers. Et une de nos préoccupations majeures aujourd'hui, c'est naturellement d'accueillir le plus grand nombre dans la diversité de ceux qui se présentent et qui sont bénévoles, parce qu'ils sont entièrement bénévoles.
C'est long, la formation ?
Ah ben la formation dépend des responsabilités qu'on occupe à bord. Si on veut être patron d'embarcation, c'est plusieurs années. Si on veut être, si on est infirmier, faut être infirmier. Si on veut être radio, faut la formation de radio. Donc la formation se fait à la fois à bord du bateau par compagnonnage, on va dire, et puis dans nos centres de formation. Et puis nous avons au niveau national un très très beau et très important, très performant centre de formation à Saint-Nazaire. Je reviens à la population. On a de plus en plus de plaisanciers. Le plaisancier, c'est pas un marin professionnel. C'est un marin, mais pas un marin professionnel. Or, pour être bénévole à la SNSM, il faut être à la fois marin et sauveteur. Donc, on les forme. Et c'est la responsabilité du président de la station, c'est la responsabilité du président national, bien entendu, de mettre, puisque nous remplissons une mission de service public pour le compte de l'État, une mission de service public de premier rang, aller sauver les gens, eh bien, il faut que l'ensemble de nos bénévoles soient parfaitement qualifiés. Et je dois dire, à la vérité, qu'ils sont aujourd'hui parfaitement qualifiés. D'ailleurs, ceci est vrai pour les nageurs sauveteurs sur les plages. Un jeune nageur sauveteur sur les plages, je dis ça à titre indicatif, avant qu'on le mette sur la plage, la première année, il a 400 heures de formation. Et en plus, il paye sa formation. Il paye entre 800 et 1000 euros sa formation. Et donc, ce sont des jeunes, on met à la disposition des maires, on a, nous, responsabilité de les former. Donc, pour nous, le point de la formation est un point tout à fait essentiel. Mmh. Il est hors de question d'avoir un outil qui se dégraderait par manque de qualification des personnels.
Bien alors, on reparlera de ça, notamment des moyens dont vous disposez. On a eu envie de parler du sauvetage en mer parce qu'il y a ce film qui sort mercredi, j'en ai parlé tout à l'heure. Il raconte le sauvetage d'un pétrolier littéralement coupé en deux dans les années 50, en étant 52 au large de la côte est des États-Unis. On écoute la bande-annonce.
Monte sur le pont et va voir ce qui se passe. Il nous reste environ 3 heures avant de couler.
Mayday, Mayday, vous me recevez ?
Rassemblez un équipage et allez secourir ce navire.
Tu es obligé d'y aller, quoi qu'il arrive.
On dit qu'un garde-côte a le devoir de partir en mer. Mais personne dit qu'il doit revenir.
Tu veux tous nous tuer ?
Tous les hommes à bord veulent survivre. Si on veut y arriver, nous devons unir nos forces.
Nous survivrons tous ou nous mourrons tous.
Film à grand spectacle inspiré d'une histoire vraie, février 52. Moi, l'image qui m'a le plus marqué, c'est ce pétrolier coupé en deux. Les hommes à bord découvrent leur bateau coupé en deux. Vous nous direz dans un instant si c'est possible. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Et dans la curiosité, on vous raconte l'histoire du sauvetage en mer avec Xavier de Lagorce, président de la SNSM, et Bernard Baron, sauveteur bénévole à Calais depuis plus de 25 ans. Le Titanic, ils auraient eu besoin de sauveteurs en mer, effectivement, mais ils étaient quand même au beau milieu de l'océan, donc c'était un peu compliqué. Vous sortez jusqu'à quelle distance, tiens, en mer ? C'est quoi la limite, Xavier de Lagorce ?
La limite sage, c'est 30 nautiques. Ceci étant dit...
30 nautiques, ça fait 50 kilomètres.
Après ouais. Ça, on peut aller plus loin. Ça dépend des dangers du sinistre. Ça dépend... On agit sur instruction des crosses, on l'a dit. Donc, on n'agit pas de notre propre initiative. Et puis, quand on va très loin, on peut aller jusqu'à 50 nautiques. On est généralement en combiné avec un hélicoptère, soit de la sécurité civile, soit de la marine, soit de l'armée de l'air. Donc ce sont très souvent des opérations combinées.
Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a ce film qui sort mercredi, film américain qui raconte le sauvetage d'un pétrolier en perdition au large de la côte est des États-Unis. Février 52, c'est une tempête effroyable. Et donc, c'est basé sur une histoire vraie. Il y a deux pétroliers coup sur coup qui ont cassé. Et donc, on voit des sauveteurs intervenir. Et alors, moi, ce qui m'a marqué, Bernard Baron, c'est que l'équipage d'un des pétroliers coupé en deux, ils se rendent pas compte qu'ils sont coupés en deux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un des membres d'équipage qui se met à courir pour aller prévenir le commandant et il est presque au-dessus du vide, il s'arrête in extremis. C'est possible, ça?
Ça m'a surpris aussi. C'est possible, la cassure est possible, tout à fait. On en a eu deux exemples chez nous. Un, la même année, en 52. Il y a eu un bateau qui s'est cassé en deux, comme le Pendleton dans le film.
Ouais.
Nous, c'était un Liberty Ship également. Liberty Ship, ce sont des bateaux qui ont été construits en grande production dans les années 42-43 aux États-Unis pour servir de bateaux ravitailleurs en munitions en prévision des débarquements sur l'Europe.
D'accord. Et donc construits un peu vite, quoi, c'est ça ?
Construits très vite, ouais. C'était des bateaux de transport de matériel. Et ces bateaux ont été rachetés par des armateurs après la guerre dans les années 50. Et le Pendleton du film de Disney en est un. Nous, on a eu deux sinistres de mer, pareil.
Coupés en deux, littéralement.
Coupés en deux, au même endroit, au château, là, vous savez, la cassure.
Et ça ne coule pas tout de suite, les deux parties
Ces bateaux, il y a des caissons, des caissons étanches. Hein, la partie. Nous, on a eu un bateau qui s'appelait le Western Farmer. L'avant a sombré en manche et l'arrière a été ramené comme dans le film, pour la casse, bien sûr, hein, les bateaux.
On avait envie, dans la curiosité aussi, de raconter l'histoire de la SNSM, du sauvetage en mer. Xavier Delagorce, comment s'appelait l'ancêtre de la SNSM, créé il y a 151 ans, presque jour pour jour? C'était en février 1865.
Alors, en fait, il y a deux ancêtres. Il y a l'ancêtre le plus ancien, si j'ose dire, c'est la Société Centrale de Sauvetage des Naufragés. Et puis, il y a eu quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, la Société des Hospitaliers Sauveteurs Bretons. On appelait ça des sociétés. Aujourd'hui, nous sommes association de droit privé. Association de droit privé remplissant une mission de service public. Par définition, dans les années 1850-1860, il n'y avait pas d'association type 1901. Donc ces sociétés se sont créées. Et elles se sont créées notamment après un électrochoc qui s'est déroulé quelques années avant, 1855 très exactement, qui est l'épisode de la Sémillante. Qu'est-ce que c'est l'épisode de la Sémillante ? C'est une frégate qui est partie de Toulon, qui, arrivée au sud de Bonifacio, a eu un fait naufrage, et il y a eu 700 personnes disparues. Donc c'est un électrochoc national, un peu comme un événement d'ampleur exceptionnelle. Et quelques années plus tard, le gouvernement a décidé qu'il fallait organiser ce qui existait, mais qui existait de manière artisanale, organiser le sauvetage en mer. Donc ces deux sociétés ont été créées. Et puis il y en a une qu'il faut citer parce qu'elle est proche de chez Bernard Baron, qui est la société de Boulogne, qui est l'une des plus anciennes, sinon la plus ancienne. Et tout ça a été fusionné il y a 50 ans, très exactement 49 ans, puisque nous fêterons l'année prochaine le 50e anniversaire. Tout ça a été fusionné à la demande du gouvernement, dans une société unique, une association unique, qui est aujourd'hui la SNSM. Non pas la SNCM, comme on dit quelquefois, mais, j'insiste, la SNSM. Donc, les sauveteurs en mer.
Et les sauveteurs en mer, ils vivent de quoi aujourd'hui?
Alors,
rapidement, on développera tout à l'heure.
Non, mais je vais être très court. Les sauveteurs en mer, ils vivent de leur profession, puisque là, ce sont des bénévoles, donc ils ne gagnent rien. Hein, si ce n'est de gagner de l'estime, gagner de la reconnaissance, on espère, de leur environnement, et la reconnaissance des médias, la preuve ce soir. Mais voilà, ce sont des bénévoles qui sont, je le rappelle, disponibles 360 jours par an, dans le quart d'heure, pour embarquer et appareiller.
Des bénévoles, des sauveteurs en mer, qui prennent des risques pour nous venir en aide. Des drames ont marqué leur histoire, par exemple celui de l'Abervrac.
On apprenait en fin de matinée le naufrage d'un canot de sauvetage au large de Brest. Je crois que nous avons notre correspondant en Bretagne en direct avec nous. On disait tout à l'heure que 4 ou 5 personnes seraient déjà portées disparues, Hervé Robin.
L'archive RTL qui date du 7 août 1986, on vous raconte cette nuit tragique juste après les informations.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Près de 2 heures qu'ils tournent en rond dans une mer agitée et par 20 nœuds de vent. Stéphane Belbéoc est à la barre d'un canot de la SNSM et déjà, les premières traces de l'accident apparaissent dans son champ de vision.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a eu une collision entre 2 navires. Il y a un navire qui a coulé. C'est pour ça qu'on est tombé sur des débris flottant en surface.
Jusqu'à 22 heures.
Tous ces hommes qui donnent de leur temps pour sauver des vies sont les meilleurs représentants de cette solidarité des gens de mer qui reste une réalité sur nos côtes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un extrait du magazine Thalassa où on parle de ces sauveteurs en mer. Ils sauvent des milliers de personnes chaque année, parfois au péril de leur propre vie. On partage le quotidien de ces personnes dans la curiosité de ces héros avec nos invités. Xavier Delagorce, président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer, et Bernard Baron, sauveteur bénévole à Calais. Alors certains drames ont marqué l'histoire du sauvetage en mer. Par exemple, celui de l'Abervrac dans la nuit du 7 août 1986. Xavier Delagorce, que s'est-il passé cette nuit-là ?
Eh bien, ce sont les sauveteurs qui ont été sollicités par le CROSS pour aller sauver un voilier. Et ça s'est mal passé. Il y avait une mer très forte, il y a beaucoup de vent, du courant. Et on a perdu 5 sauveteurs, c'est-à-dire la totalité de l'équipage. Et ça a beaucoup, beaucoup marqué naturellement les esprits et les sauveteurs. On a eu un autre grave accident un jour, et vous vous en souvenez, que lorsque... Il y a eu les essais du bombard sur la barre d'Etel. Le bombard du docteur Bombard s'est retourné, des sauveteurs sont venus. Et la barre d'Etel, c'est un endroit extrêmement délicat en termes de navigation. Le bateau s'est retourné et il y a eu 9 morts, dont 5 sauveteurs. Donc heureusement, les accidents sont rares, mais ils frappent beaucoup les esprits parce que c'est toujours dans des conditions difficiles. Et quand on a affaire à des bénévoles, des gens qui sont courageux, des gens qui sont disponibles, des gens qui sont généreux, parce que c'est bien ça, moi, le sauveteur en mer, c'est bien ça. Et j'allais dire pétri d'humilité, parce qu'on ne peut pas, en face de la mer, on est forcément humble. Bernard Baron l'a rappelé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous avons 7000 sauveteurs bénévoles, je le rappelle, disponibles, 24 heures sur 24, en 15 minutes, quelles que soient les conditions de mer. Je n'ai jamais vu... ni entendu, depuis que je connais bien cette société, je n'ai jamais connu de refus d'appareiller.
Donc, malgré les risques.
Malgré les risques.
Parce que le principe, Bernard Baron, pardon, je vous ai interrompu, c'est que vous sortez en mer forcément quand la mer est mauvaise, quoi.
Oui,
très souvent, hein, c'est le principe.
Généralement, c'est notre emploi du temps, c'est par gros temps, effectivement. Nous avons des canots tout temps. Ça veut dire que ce sont des canots autodressables, capable de naviguer par force 9 à 10 et ouragan. Ça nous est déjà arrivé. Hein. En mer du Nord, on est souvent confronté à des coups de tabac impressionnants.
Ça veut dire quand il se retourne, il se remet tout seul dans le bon sens.
Les canots de la SNSM, les canots de nouvelle génération également, sont hauteur dressables. On a eu la chance et l'occasion de vérifier avec notre canote. On s'est retourné une fois, enfin on s'est couché lors d'un sauvetage. Un car ferry s'est échoué sur la plage et le bateau, grâce à notre patron et grâce aussi aux qualités techniques du bateau, on s'est redressé dans le bon sens.
Ce qui n'est pas toujours, évident.
Alors pour répondre à votre question, effectivement, on est plus souvent amené à sortir par gros temps.
Cette nuit-là...
Et à prendre des risques, forcément.
Et à prendre des risques.
Bien sûr, prendre des risques, mais aussi à se protéger soi-même. On n'est pas des supermans.
Bien sûr. Xavier Delagorce.
Moi, je vous invite à aller voir sur Internet les essais du nouveau canot tout temps, le premier de la série, qui a été affecté à l'île de Sein, qui sera béni à l'île de Sein dans quelques semaines, et qui a fait des essais de retournement à Roscoff. Donc si vous allez sur Internet, île de Sein, Roscoff, vous trouverez ce nouveau canot tout temps. C'est tout à fait spectaculaire.
On va suivre votre conseil. On rend hommage aux sauveteurs en mer. On découvre leur quotidien. Rendre hommage aux sauveteurs en mer, c'est aussi ce qu'avait fait le journaliste de RTL, Hervé Robin, ce 7 août 1986, en l'occurrence le lendemain, le 8 août. Voilà ce qu'il disait des bénévoles disparus cette nuit.
Qui étaient des bénévoles, comme d'ailleurs les 4000 sauveteurs regroupés au sein de la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Ils sont prêts à intervenir 24 heures sur 24, 365 jours par an, pour sauver toute embarcation ou individu en difficulté au large des côtes françaises. Et ceci, quelles que soient les conditions météorologiques. D'ailleurs, une de leurs devises se résume en quelques mots. Quand personne ne sort, la SNSM sort toujours. On dit d'eux qu'ils ont le virus de la mer. Eux, ce sont des volontaires, très souvent marins-pêcheurs ou retraités de la marine nationale, mais aussi médecins, architectes ou ouvriers. Dès que l'alerte est donnée, ils laissent tout tomber et s'embarquent immédiatement à la recherche de personnes en difficulté. Et pour cela, ils ne reçoivent aucune rémunération, seulement une prime casse-croûte, soit 50 francs pour une intervention dans la journée, 100 francs si elle a lieu la nuit.
50 francs pour la journée, 100 francs la nuit, on est en 86. Il y a toujours une petite somme liée aux sorties ou pas, Bernard Baron ?
Non, le casse-croûte est moins cher maintenant.
C'est vraiment du bénévolat.
C'est du bénévolat.
Ce drame a-t-il... Oui, pardon.
Le sauvetage de la vie humaine en France est une tradition maritime et gratuit. Oui. Effectivement, maintenant, quand on ramène du matériel, des voiliers, on a un tarif qui est appliqué pour le remorquage, les frais, hein, parce qu'on a des frais, hein, un bateau.
Bien sûr, oui.
Et ça, c'est généralement les compagnies d'assurance qui prennent en charge ces dépenses. C'est insignifiant par rapport au prix des grands remorqueurs, etc. Et voilà, et les compagnies d'assurance, nous, on incite les plaisanciers et les utilisateurs de la mer, les usagers de la mer, de s'assurer, quoi, tout simplement. Et ça les couvre pour les interventions de toutes sortes.
Et vos paroles, vos mots à tous les deux touchent nos auditeurs. Gisèle de la Vienne, qui nous appelle au 3210, qui nous dit merci de rendre hommage aux sauveteurs en mer. C'est vrai que c'est un thème qui nous touche tous. Xavier de la Gorce, de quoi vit la SNSM aujourd'hui ?
Alors la SNSM vit, il y a des recettes, là, on vient de citer des recettes d'opérations d'assistance aux biens, hein. Je rappelle qu'on vient de le dire, l'assistance aux personnes est gratuite, c'est la tradition et c'est la règle. En revanche, l'assistance aux biens est rémunérée, on couvre une partie des frais. Alors on vit de recettes parce que chaque station prend un certain nombre d'initiatives, organise des sardinades, organise des fêtes de la mer.
Mais ça veut dire que l'État ne vous donne rien ?
Si, alors l'État nous donne, nous avons dans le budget de 27 millions, nous avons 25% de financement public et 75% de financement privé. Alors c'est tout à fait essentiel d'avoir ces chiffres-là à l'esprit. Mmh. Et dans les 25% de financement public, nous avons entre 8 et 10% venant de l'État. Donc l'État a fait des efforts, le Premier ministre est venu nous rendre visite à deux reprises, à Brest il y a 2 ans, à Boulogne-sur-Mer il y a quelques mois. Ceci étant dit... C'est, encore une fois, c'est une responsabilité régalienne. Le sauvetage en mer, c'est régalien. Mmh. Ça veut dire que c'est une responsabilité de l'État que nous accomplissons pour le compte de l'État, sous contrôle de l'État.
Est-ce que nous, on peut aider la SNSM ?
Alors, vous pouvez aider la SNSM, bien entendu, puisque nous avons 75 000 donateurs qui sont soit des mécènes, soit des sponsors, soit des particuliers. Moi, je vais vous donner un chiffre très simple. Nous avons 75 000 donateurs particuliers, comme vous et moi. Et il faut comparer ça aux millions de plaisanciers, chiffre estimé vraisemblable, millions de plaisanciers qu'il y a en France. Je dis une chose extrêmement simple, c'est que si chaque plaisancier, par solidarité, par simple solidarité, par sens de la responsabilité et de la solidarité, donnait 30 euros défiscalisables, il en coûterait pour chacun le prix d'une place de cinéma.
Donc 10 euros à peu près.
Le sauvetage, 10 euros, le prix d'une place de cinéma. La SNSM est définitivement sauvée. Et si vous avez simplement le quart de ce million de plaisanciers qui donnait 30 euros, la SNSM sera également sauvée. Donc j'en appelle aujourd'hui, on est en difficulté financière permanente, notre modèle économique est très fragilisé, et j'en appelle vraiment à la solidarité de tout un chacun, et bien aussi des usagers du littoral, pas seulement des plaisanciers, ceux qui fréquentent les plages et que l'on va assister lorsque... Les gens sont en vacances pendant la saison estivale.
L'appel est entendu, on peut notamment donner à l'adresse don.snsm.org. Merci à tous les deux d'être venus dans le studio de la Curiosité. Bernard Baron, je signale que vous avez publié aux éditions du Drap d'Or un livre qui raconte votre expérience à Paris, à Jim Media, avec les sauveteurs en mer de Calais. Et puis il y a ce film The Finest House qui sort mercredi dans nos salles.
Vous écoutez RTL.